Lorsque les cataractes du déluge eurent cessé, Noé ouvrit la porte de l'arche et finalement il vit apparaître un arc-en-ciel. Tout à fait d'actualité. Dans le sud, il fait du soleil en permanence. Et cet arc-en-ciel, c'est ce dont je voudrais vous entretenir ce matin, parce qu'il symbolise le pardon. L'arc-en-ciel, c'est la réconciliation après la chute, après le péché, la réconciliation entre Dieu et les hommes, et la réconciliation des hommes entre eux. Alors, en préambule à cet exposé sur le pardon, qui durera ce matin et cet après-midi, je commence par évoquer le pardon dans la vie bénédictine. On peut dire que le pardon, c'est toute la vie bénédictine. Toute la vie monastique bénédictine est œuvre de pardon. Parce que lorsque on rentre au monastère, on retourne vers notre Père plein de tendresse. Comme dit saint Benoît, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Au monastère, nous allons participer au mystère de la rédemption en pratiquant les œuvres de miséricorde. Saint Benoît nous dit qu'il faut revenir en paix avant le coucher du soleil. Alors, la présence de la miséricorde dans la règle de Saint Benoît a été développée dans un petit livre de 2013, publié par les bénédictines de Rosan, qui est la fondation de Jouques. Je vais vous instruire davantage à demander, sans doute elles doivent avoir ce livre à la librairie, intitulé La miséricorde dans la règle de Saint Benoît, à la lumière de l'encyclique Dives in Misericordia du bienheureux pape Jean-Paul II. Il n'était pas encore ça. Et je commence par une anecdote. Saint Benoît a dû faire face à de nombreuses et lorsqu'il s'est installé à Coup. Un prêtre de l'église voisine s'appelait Florentius. Et c'est lui qui va être, en quelque sorte, l'instrument de la haine contre Saint Benoît. Ça doit aussi beaucoup nous rassurer quand nous voyons l'ordre actuel. C'est pas de moi que les prêtres pouvaient semer la zizanie. Et tout simplement parce que Saint Benoît, ça marchait bien, tout ce qu'il faisait réussissait bien, et l'autre était jaloux de ce succès. Donc il va s'attaquer à Saint Benoît. Et première chose, il fait parvenir au serviteur de Dieu un pain farci de poison sous couleur d'offrande bénite. Il le reçut avec action de grâce, mais la peste que recelait ce pain n'eut pas de secret pour lui. À l'heure de la réfection, un corbeau avait coutume de venir de la forêt voisine pour prendre du pain dans sa main. Comme il arrivait donc, selon son habitude, l'homme de Dieu jeta devant lui le pain que le prêtre lui avait fait parvenir et lui donna cet ordre « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prends-moi ce pain et jette-le dans un endroit tel qu'aucun homme ne puisse le retrouver. » Alors, ouvrant la bouche et tendant les ailes, le corbeau se mit à sautiller autour du pain et à émettre de petits croassements, comme s'il lui disait en clair qu'il voulait bien lui obéir, mais qu'il ne pouvait pas accomplir cet ordre. Alors l'homme de Dieu, revenant à la charge, lui dit à plusieurs reprises « Pars, sois tranquille, jette-moi ça dans un endroit impossible à trouver. » Après de longues hésitations, le corbeau se résolut enfin à le prendre dans son bec. Il s'envola et s'éloigna. Après un laps de temps de 3 heures, le pain ayant été jeté, il revint et l'homme de Dieu lui donna dans la main sa pitance accoutumée. Et c'est une sorte de renouvellement du paradis terrestre, puisque les animaux obéissent parfaitement aux hommes. Quand vous êtes avec le bon Dieu, tout se met en harmonie avec vous. Même les difficultés tournent au bien. Mais ça ne va pas être fini. Florentius va repartir de plus belle. Or, le vénérable père, voyant que ce prêtre Florentius brûlait dans son cœur le désir d'attenter à sa vie, en éprouva une grande peine. Plus pour celui-ci d'ailleurs que pour lui-même. Mais le dit Florentius, voyant qu'il ne pouvait supprimer physiquement le maître, s'enflamma du désir d'éteindre la vie dans l'âme de ses disciples. C'est ainsi que, dans le jardin où résidait Benoît, il leur mit sous les yeux, voilà, tenez-vous bien, là, vite Saint-Benoît, tenez-vous bien, il leur mit sous les yeux cette fille nue, chargée de faire une grande farandole en se tenant la main, allumant ainsi dans leur cœur un désir pervers. Ce que voyant depuis son... et redoutant la chute de ses disciples, dont l'âge était encore tendre, comprenant bien d'autre part que tout cela n'était fait que dans le seul but de le persécuter, Benoît céda à une telle jalousie. Il mit en ordre tous les oratoires qu'il avait bâtis, et les plaçant sous l'autorité d'un préposé, et en y adjoignant des frères, puis en prenant avec lui un petit nombre de moines, il changea son lieu de résidence. Aussitôt que l'homme de Dieu se fut effacé par humilité devant les procédés de cet homme, le Dieu Tout-Puissant frappa celui-ci de façon terrible. En effet, comme le dit prêtre, debout sur son balcon, voyait s'éloigner Benoît et sautait de joie, et alors que tout le reste de la maison restait parfaitement immobile, le balcon sur lequel il se trouvait tomba et l'écrasa dans sa chute. Ainsi s'éteignit l'ennemi de Benoît. Toute puissance de Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu, rien ne nous résiste en quelque sorte. Le disciple de l'homme de Dieu, appelé mort, jugea qu'il fallait tout de suite annoncer la chose au père Benoît, lequel n'était encore qu'à une distance de 10 000. Il lui dit « Reviens, car le prêtre qui te persécutait s'est éteint. » Pendant cela, l'homme de Dieu se livra à de grandes lamentations, tant pour la mort de son ennemi que pour l'exultation de son disciple devant la mort. Il suivit qu'à son disciple aussi, il infligea une pénitence, par en lui annonçant une telle nouvelle, il avait osé se réjouir de la mort d'un ennemi. Bien, à ce moment-là, Saint Grégoire le Grand évoque David, qui lui aussi avait pleuré sur la mort de son ennemi. Et si vous avez étudié littérairement les livres de la Bible, où est racontée l'histoire de David, vous apercevez que ces larmes de David sur la mort au centre du récit. Et c'est la charnière, en quelque sorte, David, et après que Saül soit mort, et qu'il lui ait pardonné, qu'il ait pleuré sur la mort de son ennemi, David devient roi. Autrement dit, on règne par le pardon. Et la vie de Saint-Benoît, c'est la même chose. Si vous analysez la structure littéraire de la vie de Saint-Benoît, vous apercevez qu'il y a deux épisodes principaux, deux phases principales, avec des séries de miracles. On va voir regrouper ça en séries de miracles. Et la séparation entre les deux séries, d'abord c'est 4 miracles, ensuite 24 miracles, et une multiplication de miracles, en puissance de l'homme qui est en Dieu, séparé justement par ces larmes de Benoît sur la mort de son ennemi. C'est le pardon, en quelque sorte, qui démultiplie la puissance de l'homme. Alors, comment pardonner ? Qu'est-ce que le pardon d'abord ? Chapitre 1, après ce préambule, notion du pardon. Est-ce que ce n'est pas injuste de pardonner ? Lorsqu'on est victime d'une injustice, il faut que justice soit faite, justement. La réponse va nous venir de la révélation, mais aussi de la raison naturelle. La révélation, vous connaissez, je résume, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La raison naturelle. Même notre simple raison naturelle exige que nous pardonnions. Les anges, il n'y a pas de pardon, même si on considère leur simple nature. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop intelligents. Ça va trop vite pour eux. Alors que pour nous, comme nous sommes placés dans la durée temporelle, soumise à la réflexion progressive, il y a place pour un pardon, pour une correction, un amendement de notre âme. Et deuxièmement, deuxième considération, nous sommes faits pour aimer. Et il y a déjà un certain amour naturel dans les êtres inférieurs à l'homme. Le semblable recherche le semblable. Et de même, un homme est bâti pour faire plaisir à son prochain. Nous sommes bâtis pour faire plaisir à notre prochain. Même si le semblable recherche son semblable en dessous de l'homme, alors à plus forte raison, l'homme lui aussi doit chercher à faire plaisir à son semblable. Et celui qui n'a pas la charité peut déjà posséder une certaine amitié de bienveillance envers ses semblables. Faire miséricorde appartient déjà à la nature de l'homme Car il y a un amour naturel de l'homme pour l'homme et de l'homme pour Dieu. Et la miséricorde, c'est l'attitude et la réaction de l'amour en regard de la misère. Or, il n'y a point d'homme qui, dans l'état présent, ne se trouve profondément affecté par la misère. Donc, il y a de l'amour, il doit y avoir miséricorde. Alors, après avoir présenté rapidement ce qu'est le pardon, maintenant ce que n'est pas le pardon, toujours dans le chapitre 1. C'est le faux pardon manipulateur. Voici un exemple que donne une éditorialiste de famille chrétienne qui est décédée en odeur de sainteté. Elle s'appelle Delorme. Elle donne cet exemple d'une épouse à la fois. Ça pourrait être aussi tout de suite que les lions vont avoir la domination. Une épouse à la fois doucereuse et tyrannique, régentant et critiquant les moindres faits et gestes de son mari. De toute évidence, elle se voit comme une douce sainte, bien méritante de supporter les nombreux défauts de son époux, qui impose les démarches de pardon pour bien lui montrer qu'il est coupable et qu'elle est trop bonne de pardonner. Vous voyez que dans ce cas, il n'y a plus que l'étiquette du pardon. Encore là, l'étiquette. Mais l'amour est absent. Alors, finalement, dans quel cas y aura-t-il vraiment pardon? Eh bien, voici quelques critères qui vont permettre de discerner nos intentions. D'abord, première question. Est-ce que je suis prêt à demander pardon le premier? Si je suis prêt à demander pardon le premier, c'est un signe que mon pardon est vraiment. Deuxième question. Est-ce que mon pardon a pour but de faire grandir l'autre? Non, dans l'estime de soi. Troisième question. Que je suis d'accord pour lui pardonner avant même qu'il ne m'ait demandé pardon. Quatrième question. Est-ce que je suis capable de lui pardonner sans rien dire si mon pardon risque de l'humilier? Oui. Que je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Parfois, on veut tout de suite se précipiter, et en fait, c'est pas un pardon profond, ça pense le moment qu'il faut. Et évidemment, dans ce cas-là, du pardon extérieur, puisque intérieurement, il faut pardonner tout. Et il faut savoir aussi que parfois, ce moment ne viendra peut-être jamais. De manifa, pardonner intérieurement. Si on venait dire la chose extérieurement à la personne, elle comprendrait ça comme une provocation. Là, il vaut mieux ne rien dire. Chapitre 2, l'exercice du pardon. Panta, pas qui sera sans grand B, les phases du pardon. Petit 1, les phases préliminaires. Du côté de la connaissance. C'est de la connaissance. Que faut-il pour pardonner? Eh bien, la première chose à faire, c'est de regarder ce qui s'est passé. Voir les faits. Pas, et puis on peut grossir, ou on peut au contraire diminuer. Donc, il faut voir les choses à leur juste proportion. Et déjà ça, ça prépare beaucoup à bien pardonner. Ça oblige à, évidemment, beaucoup maîtriser ses passions. Parce qu'on est sous le coup de l'offense, déformé d'une manière ou d'une autre les événements. Donc, si on s'applique à... Bon, voilà. Calme, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, reconnaître l'offense. C'est occasionné. Et avec quelqu'un. Et à y voir clair. Pas tout seul, on est un rond un petit peu, et puis on ne sait pas trop finalement comment s'en sortir. On peut prendre du recul pour chercher à froid les causes de l'incident ou du différent. Ça aussi, ça éclaire. Pourquoi ça s'est passé comme ça? L'autre, par exemple, il avait l'intention de... Mais c'est quand même assez rare, ça. Souvent, il y a des offenses, la personne a agi sans trop réfléchir, ou la personne a agi et il y avait quand même quelque chose de bien qu'elle voulait. Donc, si on arrive à discerner les causes de l'offense, les causes peuvent être psychologiques, la fatigue, la différence de caractère, la suspicion, peuvent être intellectuelles, manque d'informations ou d'explications. Défaut de communication, incompréhension. Et aussi, il faut réaliser que dans ce qui est gratuit, il n'y a pas d'offense. Alors, il y a un auteur qui donne cet exemple du mari qui n'apporte pas de bouquet le soir de l'anniversaire de mariage. Ce soir, c'est l'anniversaire de mariage, il n'a pas apporté de bouquet. Est-ce qu'il a commis une offense? Et non, parce que c'est gratuit. Il n'y a pas d'obligation d'apporter. Déjà, vous voyez, réaliser que c'est gratuit, donc du coup, l'autre ne se sentira pas offensé. Donc il ne faut pas se croire offensé pour des choses. Et souvent, quand on on cherche à dominer, c'est parce que on veut que l'autre soit ce qu'on veut qu'il soit. Et qu'on veut qu'il le soit parfois plus vite que la musique. Tu es tard, tu parles trop, tu te fâches toujours, t'es attentif, t'es pas assez habillé, t'es pas aussi bien habillé que tu réussis pas aussi bien que les autres. Donc tout ça, ça concerne plutôt les faits et leur explication. Et ensuite, il faut voir aussi les conséquences. Les conséquences d'abord du pardon refusé. Si je refuse le pardon, qu'est-ce qui va se passer ? Martin Guénard, pendant longtemps, il ne pensait qu'à une seule chose, c'est ce qu'il a vécu dans son enfant. La mort. Donc, c'était inscrit en quelque sorte dans tout son être. Mais si je tabasse, est-ce que j'ai positif ? On va voir les conséquences du pardon refusé. Après, ayant grandi, il est à la tête d'une bande et un jour, il débarque dans une boîte de nuit. Cette bande se met à tabasser. Et tabasse, puis tout d'un coup, quand il tabasse, une conséquence du pardon non demandé par l'offenseur adulte. Alors Christine Ponsard donne cet exemple. Il dit, notre autorité sera grandie si la demande de pardon est une démarche ponctuelle, claire, limitée à un ou plusieurs faits précis. Je te demande pardon de t'avoir dit que tu n'es bon à rien. C'est injuste et complètement faux. J'étais en colère, mes mots ont dépassé ma pensée, j'ai eu tort et je le regrette. On s'imagine que si on est adulte et qu'on demande pardon à un petit, on va se déconsidérer, on va perdre son autorité. C'est quoi qui est vrai ? Je ne veux pas dire qu'il faut être en permanence en train de demander pardon. Parce que, mais si on le fait à propos de quelque chose qui est limité à un fait précis, et loin de perdre notre autorité, nous allons la grandir. Être éducateur en même temps pour l'envoi. Où est toujours dans la connaissance, il faut reconnaître sa difficulté à pardonner. Rien que ça, ça peut aider à une femme qui est devenue spécialiste du pardon, qui a écrit plusieurs livres sur le pardon, compte que jusqu'à 35 ans, pour elle, ça ne lui posait aucun problème. Jusqu'au jour, elle s'est trouvée face à une situation horrible. Pardonner, ce n'est pas oublier. Il faut se souvenir un minimum pour pouvoir éviter les foyers d'infection. Père Jean-Yves Ducourneau, dont je vous ai déjà parlé, qui a écrit « Mal de mer », lui, oublier, c'est malgré tout ça, un itinéraire de pardon vis-à-vis spécialement de ça. À tel point que, devenu prêtre religieux lazariste, un ouvrage sur « Au lieu de se révolter », donc, il avait reconnu la difficulté qu'il avait à pardonner. Il le dit dans son livre. Il le dit même à la fin de son livre. Son livre, il écrit ça à son avance. Il dit, je ne dis pas que je sois arrivé à tout clarifier dans mon existence. Je n'ai pas tout dit non plus. C'est encore très difficile. Mais il cherche à pardonner à fond, entièrement. Donc déjà, reconnaître sa difficulté à pardonner, ça aide beaucoup à pardonner. Ensuite, donc il faut prendre du temps, ne pas s'étonner de cette difficulté. Depuis le péché originel, spécialement, les forces de notre nature ne sont pas suffisantes pour que nous puissions pardonner facilement. Que la miséricorde, ça suppose d'aimer une misère, ce qui n'est pas très attirant, humainement parlant. Ça gêne toujours d'avoir à regarder quelqu'un qui est pauvre, parce que pour l'aimer, il faudra payer de soi-même. Alors, quelques petites indications qui peuvent nous aider à du côté de la connaissance. Nous pouvons dire à Dieu notre fureur. Là, en utilisant les psaumes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les psaumes, il y a de la fureur en permanence. Eh bien, si Dieu a voulu qu'on prie par les psaumes, c'est aussi pour ça. Déchaîner notre fureur. C'est ce que faisaient en fait les Grecs dans l'Antiquité, parce que là, Aristote, qui était la purification des passions. Sur la scène, les Grecs voyaient se dérouler des horreurs. C'est une manière pour eux d'extérioriser ces horreurs et de purifier leur âme. Donc nous pouvons le faire par les psaumes. Nous allons dire à Dieu notre fureur. Ah, ça va la faire sortir en quelque sorte. On va lui dire ce qui ne va pas. Et dans les airs au bas de l'autel, délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur vis-à-vis de nos propres. On peut également, autre conseil, prier Sainte Rita. Pourquoi est-ce qu'elle est la patronne des causes désespérées ? Parce que elle qui avait converti son époux violent et brutal, et est ensuite assassinée, c'est parce qu'elle a réussi par ses prières à écarter tout sentiment de vengeance jusqu'à demander à Dieu de les voir plutôt morts qu'homicides. Elle est la patronne des grands priés, Sainte Élisabeth de Portugal, la petite nièce de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui s'est dévouée pour apaiser les querelles familiales. Peut-être le 8 juillet, dans le 4e. On peut faire appel à l'amour miséricordieux du Seigneur. En effet, l'amour divin n'a pas besoin d'être enrichi par ce qu'il aime. L'amour de Dieu est bâti, si j'ose dire, pour exercer la miséricorde. Alors que pour nous, on a besoin, quand on aime, d'être enrichi par quelque chose. Alors que l'amour de Dieu, lui, il n'a pas besoin d'être enrichi, puisqu'il a toute la richesse, il donne. Et donc, en ce sens, il est bâti pour faire miséricorde. Et donc, si on fait appel à l'amour miséricordieux du Seigneur, ça sera plus facile pour nous. Enfin, on peut se mettre avec humilité dans la main de notre Père. Pardonnez-nous nos offenses, nous nous pardonnons. Après le côté de la connaissance, maintenant, petit b, le côté affectif. Alors, premier point, faut accepter soi-même d'être pardonné. Parfois, il arrive que des gens ne se pardonnent pas de s'être exposés à tant de malheurs. Ensuite, deuxième point, trouver un sens à l'offense. Si nous comprenons que l'offense, mystérieusement, dans le plan divin, va nous aider à grandir, alors nous comprendrons que l'injustice dont nous avons été victimes n'est pas complètement sans raison. Par l'offense, nous pouvons grandir dans la liberté intérieure, nous pouvons être purifiés dans notre cœur. C'est ce que saint Jean dit dans le discours après la suite. « Puis la vigne véritable, mon père est le vigneron, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. » Purification nous permet de fruits. Petit 2, après les phases préliminaires, voici maintenant la réalisation du pardon lui-même. Petit a, comprendre l'offenseur, sinon pour une part, l'excuser. Xanthime Guénard n'a jamais compris pourquoi, cette fois-ci ses pères, mais sa mère, est dans le fossé. Où est-ce qu'elle a fait ça? Pour bien plus tard, quand il est devenu adulte, il a « Ah, oh, c'est toi? Ah, oh, te voilà, toi, là? Ah, oh, t'es bien comme ton père. » Puis dans des cas comme ça, c'est dit. Et alors, il y a Paulette Boudet qui suggère de faire des prières de bénédiction. Donc on va essayer de bénir celui qui nous a offensés. Même ça, c'est personne. Faire le bénir. Donc on va prier le bon Dieu de lui envoyer une bénédiction. Alors, cette Paulette Boudet, je ne suis pas rentré dans le détail, il y avait une personne qui lui était très proche, très chère, et puis un beau jour, elle a agi avec elle de façon financièrement malhonnête. Ce fut un choc très violent, car j'avais une confiance absolue en son intégrité sur tous les plans. Le choc prit la forme d'une muraille. C'était comme si tout d'un coup, une muraille de 2 ou 3 mètres de haut me séparait d'elle, non seulement quand j'étais avec elle, mais aussi lorsque j'étais loin d'elle. Nature, j'aurais voulu me précipiter chez elle pour lui dire que je savais et tirer les choses au clair. Mais il était très clair pour moi que je ne pouvais pas lui en parler dans l'état d'indignation et de blessure où je me trouvais. Deuxième chose que je découvris fut que je ne pouvais plus prier comme d'habitude. J'étais obsédé par le tort qu'elle m'avait fait, par son manque de probité, par ma désillusion. Et je retrouvais là aussi cette muraille de 2 ou 3 mètres de haut que je transportais partout avec moi. J'étais prise dans un cercle vicieux. Je savais que je ne pourrais pas lui dire que j'avais découvert avant de lui avoir vraiment pardonné. Il me semblait impossible de commencer même à lui pardonner avant de lui avoir vidé mon sac. Face à cette impossibilité de prier, il me fallut pas bien longtemps pour vouloir lui pardonner. Mais, ayant pris la décision de pardonner, je découvris mon impuissance à pardonner par ma seule décision de pardonner. C'est cette situation qui m'a pour la première fois amené à la prière de bénédiction. Il me fallut 5 ou 6 semaines de prière de bénédiction quotidienne pour arriver au pardon du fond du cœur. Au cours de cette prière, je changeais petit à petit de point de vue. J'avais commencé à prier avec un point de vue qui était le mien. J'en venais au si j'entrais dans ses motivations, je les excusais, je me découvris en train de prendre son parti. Cette prière de bénédiction, je l'ai aussi expérimentée après avoir épuisé toutes les autres formes de prière et de supplication pour arriver à pardonner à cette très jeune femme qui était alors encore la maîtresse de mon cœur. Aucune prière n'était arrivée à vraiment atteindre le fond de mon cœur, vraiment me délivrer de toutes les racines et profondes radicules de refus. Chaque fois que je croyais avoir enfin pardonné, je rencontrais d'autres radicules de rancune, de rancœur, enfouis plus profondément sous la couche atteinte par le pardon. Je découvrais mon incapacité radicale à extirper totalement les radicules les plus profondes de mon ressentiment. Je me mis enfin à prier pour elle en bénédiction. Atteindre ce fin fond du cœur prit plus de temps que lors de la première prière de bénédiction. Au bout de 9 mois de prière quotidienne, je n'avais pas pris son parti contre moi, mais j'avais cessé d'être contre elle. J'avais de la compassion pour sa souffrance. Je pouvais la regarder en face. Je pouvais lui sourire. Mais ceci n'est pas une histoire de pardon, mais de grâce, qu'au bout de ces 9 mois, elle quitta la ville que nous habitions et partit à l'étranger. Donc ici, chose que de faire ses prières. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est à force du poignet, c'est à la force de la multiplication des bénédictions, en quelque sorte, réalisées par nous-mêmes, que nous allons arriver à pardonner. C'est la grâce de Dieu qui va nous donner cette force, qui va passer à travers cette prière de bénédiction. Et puis, il ne faut pas non plus s'imaginer que pour avoir pardonné, il faut avoir eu la sensation qu'on a pardonné et n'avoir plus d'oubli de l'offense. Elle sentait encore en elle des radicules, elle se disait « je n'ai donc pas pardonné ». C'est pas parce qu'on a des radicules, on sent des tas de choses en nous qui s'agitent qu'on n'a pas vraiment pardonné. Le pardon est d'abord quelque chose de spirituel. Ma volonté, mon intelligence veulent vraiment pardonner sous l'influx de la grâce. Je le fais dans un acte très simple, c'est fait, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Et je n'ai même pas besoin non plus d'aller embrasser la personne comme si c'était mon meilleur ami. J'aurai encore des tas de choses qui vont s'agiter en moi. Mais là, ça serait un piège du démon que de me laisser attirer par tout ça et de me laisser de continuer à croire que je n'ai pas pardonné parce que ça s'agite en moi. Le pardon est spirituel. Et ce qui s'agite en moi est d'ordre sensible. Donc ne pas trop faire attention à ça. Évidemment, ça sera très difficile. Mais justement, ça sera partie à ce moment-là de cette purification qui va être l'occasion pour nous de grandir. L'offense est une occasion de nous approcher de Dieu, mais nous aurons pour autant vraiment pardonné. Non, pas nous inquiéter trop. Alors, il y a 3 scénarios possibles. Soit j'ai totalement raison, soit j'ai totalement tort, soit les torts sont pardonnés. Soit les torts sont partagés par eux. J'ai totalement raison. Avant que l'autre vienne, même si j'ai totalement raison, je fais le premier pas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai parfois renoncé à mon point de vue pour le bien le plus grand de la charité et de l'unité. J'ai totalement tort. Ah ben alors là, je demande pardon, comme le bon larron. Prime mes regrets. Et les paroles sont toujours les mêmes. Je suis désolé, je reconnais que j'ai eu tort. Père, pour arranger les choses. J'essaierai de ne pas recommencer. Je te demande pardon. Et si les torts sont partagés, ce qui est quand même assez fréquent. Alors, maintenant, parcourons la suite. Acte, on nous permet de réaliser le pardon. Donc, le petit B, s'ouvrir au pardon, le désirer. Que nous désirons pardonner. Si nous désirons pardonner, même si nous n'avons pas encore pardonné, immédiatement préparer à pardonner. On n'a pas la force encore de pardonner, on a la force de le désirer. D'accord, mais je le veux. Et ensuite, petit C, poser l'acte de liberté. Grâce qui agit avec nous, mais elle n'agit pas sans nous. Je suis offenseur, le gâteau ne s'est pas cassé tout seul, j'ai cassé le gâteau. Si je suis offensé, alors on peut prendre cet exemple de Saint Jean Galil, au Xe siècle, à l'époque c'était particulièrement le cas, au Moyen-Âge. Et un homme est tué dans une famille marquante Gualberti. Et craignant la vengeance des victimes, l'assassin évite toute rencontre. Un jour, c'est un vendredi saint, Jean Galbert se rend à Florence accompagné de ses hommes d'armes et il rencontre son ennemi au détour d'un chemin très étroit qui ne laissait de passage ni à droite ni à gauche. C'était vraiment pour l'écraser une bonne fois. La partie n'était pas égale. Se sentant perdu, l'homme se jette à bas de son cheval, tête baissée. Jean Galbert, âgé de 18 ans, ému de larmes, ému des larmes et de la crainte de l'autre, et plus encore, l'image de la croix, des bras de son ennemi, et le laisse s'en aller. Sa grâce qui a agi à travers lui, qui avait osé l'acte de liberté, Sotte a parlé un peu du pardon. Certes, sans la grâce, on peut envisager, mais c'est vrai que la grâce interdit. Petit dé, les occasions du pardon. Quand pardonner? Dans quelles circonstances? Dans quel texte? Eh bien, ça dépend des cas. Mais en général, le plus tôt est le mieux. Ça peut être la prière du soir. Saint Benoît dit que avant le coucher du soleil, il faut revenir en paix avec celui dont on a été séparé par une discorde. C'est pour ça que traditionnellement, on voit le soir, dans les couloirs des monastères parfois, et devant la porte de la cellule, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il rit lui aussi. Il dit, avant le coucher du soleil, venir en paix avant le coucher du soleil. On peut le faire par courrier. Parfois, ça peut être possible. Pas à s'imaginer que c'est même Christ. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire par oral. Et ça permettra de dépassionner, dire les choses qu'on pourra vraiment pardonner. Petit E, multiplier les actes de pardon, oui ou non. Bien, remettre la chose entre les mains de Dieu. Faire plusieurs manifestations. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est en multipliant qu'on va... Si on sent encore des choses bouger en nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est une bonne fois pour toutes dire au bon Dieu, c'est vous qui vous en occupez. Là, je mets ça dans un petit paquet, dans le coin de la pièce. Je sais que ça bouge, là, je sais que ça bouge. Et moi, c'est terminé, moi j'ai fait ça. Petit F, purifier notre mémoire. Top, voici ce qu'il écrivait. Être équitable, c'est être indulgent aux faiblesses humaines. C'est aussi se rappeler le bien qui nous a été fait plutôt que le mal. Les bienfaits que nous avons reçus plutôt que les services que nous avons rendus. Savoir supporter l'injustice, c'est consentir qu'un différend soit tranché plutôt par la parole que par l'action. Préférer s'en remettre à un arbitrage plutôt qu'à un jugement des tribunaux. Dans la rhétorique d'Aristote. Et un païen a pu écrire de si belles choses, est-ce que nous, avec toutes les ressources de départ, pas arriver à faire mieux? Donc, comme je vous disais, on n'a pas oublié nécessairement l'offense, la plupart du temps, mais on doit rectifier le souvenir. Quand ça nous revient à l'esprit, ça sera pour nous une occasion de purification. À chaque fois, on repensera qu'on a pardonné, et que Dieu est miséricorde, et que nous aussi, on a été pardonné pour un certain nombre d'autres choses. Donc finalement, ces radicules qui viendront nous assaillir, nous verrons s'agiter en nous, ça sera des occasions de rebondir en Dieu. Il y a un taux graduel dans le chant grégorien. Iacta cogitatum tum domino et ipse enut. Jette cogitation en Dieu, et c'est lui. Iacta. Bondissement de jette. Iacta. Chant grégorien, on peut dire, c'est presque tout entier un chant de l'abandon dans les mains du Père. Le mouvement de cette élévation vers Dieu et ce repos en Dieu. Petit 3, en aval. Aval, c'est-à-dire en quelque sorte, en conséquence. Dans la conférence, vous avez des questions. Il vous reste peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. Je vais les poser maintenant. Donc, il faut se rappeler que nous sommes chargés de nous-mêmes et pas des autres. Tal qui dit que nous sommes un assez bien grand diocèse. La portée de cette phrase, en se disant que jamais à s'occuper des autres sous aucun rapport, mais c'est pas à nous de faire le salut des autres à leur place. On peut faire quelque chose pour aider les autres, on le fait. Quand on doit le faire, on peut ce qu'on doit. Mais quand on ne peut pas et qu'on ne doit pas, alors il n'y a aucune faute. Toujours le critère pour savoir s'il y a une omission coupable. Est-ce que je dois? Je ne dois pas, je ne peux pas. Donc j'ai aucune.
Je vais vous donner un exemple. Ma moine n'a pas obéi. Mais
ça...
Après, il faut qu'il obtienne le moine, ne demande pardon, mais le pardon.
Un moine qui ne veut pas demander pardon, qui ne veut, veut pas faire satisfaction finalement, c'est ça?
Voilà,
c'est ça. Mais ça, normalement, ça fait partie de la règle, donc celui qui ne veut pas ça. Donc saint Benoît dit qu'il faut pardonner. Si la personne, elle, se bloque, refuse tout pardon, ça veut dire qu'elle se sort de la vie monastique. Mais le père abbé, lui, cherchera le plus possible à temporiser. Et saint Benoît dit qu'il faut, en ce moment-là, envoyer ce qu'il appelle les sympectes. Ça voudrait peut-être dire sun paizo, c'est-à-dire on va plaisanter avec. Et envoie un sympect, c'est-à-dire quelqu'un qui s'entend bien avec le moine en question, on va l'envoyer pour qu'il. Il le distrait, il lui change un petit peu les idées, et puis peut-être qu'au bout de ce moment-là, l'autre reviendra à de meilleurs sentiments. On pose évidemment le cas d'un refus d'obéir qui est un refus d'obéir. Il y a une apparence de désobéissance qui n'est pas une désobéissance. Il y a une règle, une lettre de Saint Bernard, donc ce cas-là, Juan, qui a obéi et qui a fait quelque chose, ce père abbé qui commandait quelque chose qui était contraire aux constitutions de l'ordre. Dans cette obéissance, en fait, il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et donc, saint Bernard lui reproche d'avoir obéi. Donc, dans ce cas-là, il aurait fallu désobéir, extérieurement parlant, et cette désobéissance n'aurait pas été une désobéissance, en fait. Il faut bien distinguer entre l'exécution purement matérielle, une injonction, peut très bien n'est pas être en réalité un acte d'obéissance. Pour savoir s'il y a vraiment obéissance ou non, il faut savoir si justement on a suivi les critères d'obéissance. Les critères en question, c'était les constitutions de l'ordre de Cîteaux. De la manière, savoir si on obéit vraiment, est-ce qu'on suit les lois de la nature humaine? Est-ce qu'on loi de la surnature, c'est-à-dire les lois données par l'Évangile, la nature des choses, qui régler le comportement de notre personne?
L'existence d'un ordre monarchique et même cause ou croire quelque chose, le problème se pose.
Alors, il y a des cas, effectivement, où il est difficile de départager l'État. Il y a des cas où des saints même se sont retrouvés en conflit. Rome et saint Augustin. Mais c'est pas parce que c'est très difficile de voir qui a raison, qui a tort, que c'est absolument impossible, au moins aux yeux de Dieu. Dans ces cas-là, ça pourra au moins excuser une des deux personnes de péché. De son côté. Voilà. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Des deux côtés, ça pourra excuser les deux personnes du péché. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une des deux positions qui n'était pas la position juste, objectivement parlant. Vous voyez, cette excuse, elle est au point de vue subjectif, interne de la conscience. Que même en accomplissant quelque chose qu'il ne fallait pas faire, on a pu le faire avec une bonne foi, subjectivement, donc on n'a pas péché. Même si objectivement, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Dire que le vol était un péché. Non, objectivement, le vol est un péché. Donc, analogue aux situations que vous dites, quoi, il peut y avoir des cas où les deux personnes sont pas bonnes, ne commettent pas de péché, mais si un théologien arrive et analyse la situation de manière précise, il verra qu'en fait, il y en avait un des deux qui avait raison d'agir de la façon. Oui, le problème des guerres aussi est très difficile. Parce que dès qu'on rentre dans le domaine contingent, prudentiel, il est encore plus difficile de faire un discernement. Si déjà c'est difficile, au point de vue doctrinal, universel, nécessaire, d'arriver à discerner la vérité, alors à plus forte raison, quand on rentre dans l'épaisseur du contingent, c'est très bas que, classiquement, les théologiens disent que les soldats n'ont pas à se demander si la guerre est juste à partir du moment où ils font leur devoir, ils accomplissent la tâche que leur demande le gouvernant, leur devoir d'État, et ils n'ont pas fait. Même si lui, le gouvernant, a pu faire une faute en lançant une offensive. Là, la faute repose sur le gouvernant.
Ça n'a pas de conséquences. L'amnistie n'est pas le pardon.
Mais si quelqu'un n'a pas conscience de son péché,
il pourrait se considérer.
Ah oui.
Je ne parle pas de celui qui commet,
celui qui est offensé.
Il pourrait être considéré comme.
Oui, bah dans ce cas, il n'est pas. Donc il n'a pas conscience d'être victime. Alors qu'il est victime, bah, tant mieux pour lui. Alors il a pas ce mérite-là, mais je pense que dans son existence, il aura d'autres occasions. Il aura d'autres occasions de pratiquer des mérites.
Oui. Pensez-vous du code de la route?
Et le code de la route n'est pas la loi naturelle. D'abord, c'est une loi positive. Vient d'un profanant des gens vers un feu rouge où il y avait parfaite visibilité partout. Bon, les principes, c'est fait pour s'asseoir dessus. Il franchit le feu rouge à toute vitesse. Donc ça veut dire que dans ce domaine de la loi positive, il peut y avoir effectivement des cas où on admettre à cette loi positive. On appelle le cas des lois purement pénales. Elles obligent simplement à se soumettre à la peine si n'est que vous soyez dans votre droit, que vous n'ayez pas commis le trouve, qu'il y avait un gendarme qui était caché, qui arrive avec, et qui vous fait une contravention. Là, vous êtes quand même tenu de payer l'amende, même si subjectivement, vous n'avez commis aucune faute. Donc, vous devez quand même, d'une manière générale, vous soumettre à toutes les lois du code de la route. Et c'est de façon une prudence, parce que sinon, votre portefeuille risque de se dégarnir. Oui.
Donc, il y a plusieurs scénarios.
La situation n'est pas exactement la même. Alors, pour simplifier, en fait, j'ai pas voulu rentrer dans la multiplication des murs, que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport aux créatures. Complique encore ça. Montre qu'il y a, dans le cas de Dieu, c'est pas exactement pareil. Et que Dieu, vis-à-vis de lui, eh bien, c'est sûr que nous devons lui demander pardon. Et lui n'a jamais commis de faute. Et c'est l'acte de contrition, donc c'est le sacrement de pénitence. Mais il est toujours prêt à nous pardonner, c'est le gros avantage. Alors que dans l'autre homme, il y a parfois, il est toujours prêt à nous pardonner. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. C'est à ça qu'il faut penser, surtout bien se rappeler que le bon Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Dieu est bon. Et là, il y a la messe.
On retrouve là le cas de la messe pour la vie de la mère prieure. La messe à vie, et la photo.
Oui, voilà. Je pense qu'il vaut mieux accueillir la mère abbesse quand même. Et pour prendre la photo, on aura le soleil. D'abord, on aura comme un peu de temps. Hein. Parce que nous, on mange qu'une heure. Et le soleil, je pense qu'on va pas. Mais je ne sais pas si on peut proposer la mère abbesse de venir la photo.
Mais il y a un peu de temps.